La Gazette.
L'actualité de 1919. Bonjour à tous, je vous propose de faire une revue de presse accompagnée de Damien. Bonjour Damien.
Bonjour Martine.
Il n'est pas question de faire la concurrence à nos amis de C'est quoi cette info, car il s'agit d'un journal d'hier et on peut même dire d'avant-hier, puisqu'il est paru il y a un siècle, en août 1919, dans l'Ouest éclair.
Demandez François, Paris Presse, Le Monde. Demandez le Figaro littéraire.
Demandez Marie-Claire.
Alors, on restitue la période, c'est la fin de la Première Guerre mondiale.
Oui, et rassurez-vous, on ne va pas vous faire un cours sur le traité de Versailles, qui en fait de paix apporta surtout le germe de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est la fin des hostilités.
Alors, que lit-on dans les journaux ?
On prépare des fêtes de quartier pour le retour des poilus, défilés, vins d'honneur à Rennes par exemple.
V'là plus d'une année que dans les tranchées, nos petits soldats loin de tout le monde sont là-bas. Tant dans la bataille, ils bravent la mitraille, ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur ces sales prussiens. Mais quand ils sont au repos et qu'ils n'ont pas de flingot couchés sur le dos, à nos poilus qui sont sur le front, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction ? Une femme, qu'est-ce qui leur ferait gentiment passer un sacré bon moment ? Une femme, au lieu de la sale gueule des Allemands, ils aimeraient bien mieux certainement. Une femme, cré bon sang, qu'est-ce qu'ils donneraient pas pour tenir un moment dans leurs bras ? Une femme.
Le 20 août, le plus jeune héros de la guerre, c'était un gars breton.
Ouais, c'était Jean-Corentin Carré, né au Faouët en 1900. Il s'engage à 15 ans. Il appartenait donc à la classe 1920. Il aurait pu attendre la convocation du contingent avec lequel il serait appelé sous les drapeaux. Mais dès que la guerre est déclarée, il s'engage sous un faux nom puisqu'il n'a que 15 ans. Il suit avec succès un peloton d'élèves caporaux et monte au front le 20 octobre 1915 dans le secteur de Ménil-les-Hurlus. Alors pour vous situer, ça c'est un petit village qui a été totalement rasé de la carte à cause des combats qui s'y sont déroulés. Jean-Corentin Carré est nommé sergent en juin 1916. Il est cité le 15 novembre et reçoit la Croix de guerre.
Et il quitte l'infanterie, non pas pour les peines et les misères qu'on endure dans cette arme, mais parce qu'il trouvait la responsabilité de 50 vies humaines qu'il commandait un peu lourde pour ses jeunes épaules.
Oui, du coup, il est volontaire pour servir dans l'aviation. Il voulait venger un aviateur devenu un héros du ciel, Georges Guynemer. Il est breveté pilote durant l'été 1917. Il survolait les lignes devant Verdun lorsqu'il fut attaqué par 3 avions ennemis. Il meurt de ses blessures à l'hôpital militaire de Souilly le 18 mars 1918.
Je suis le chef d'une joyeuse famille. Depuis longtemps, j'avais fait le projet d'amener ma femme, ma soeur, ma fille voir la rue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, encore nous nous sommes mis en route. Les femmes avaient pris le devant. Moi, je donnais le bras à belle maman. Chacun devait t'emporter, quoi pouvoir moulotter. D'abord, moi, je portais les pruneaux. Ma femme portait de jambonneaux. Ma belle-mère, comme fricot, avait une tête de veau. Ma fille, son chocolat. Ma soeur, ses deux œufs sur le gaisé content, nous marchions triomphants en allant à l'enchant le cœur à l'aide, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française.
Le 7 août, un avion passe sous l'Arc de Triomphe.
C'est Charles Godefroy, pilote qui compte plus de 500 heures de vol. Son avion, un biplan de 7,50 m d'envergure, est passé sous l'arc de 14,62 m de large et 29 m de haut. Il survole un tramway dans lequel tous les voyageurs se jettent à terre. Les pilotes avaient été vexés d'avoir dû défiler à pied lors du défilé du 14 juillet précédent.
Et le préfet de police défend la projection de son exploit dans les salles.
Ouais, mais nous, on peut le voir sur le site de l'INA, ça dure 43 secondes.
Conseil de guerre, on annonce le procès du traître qui a dénoncé aux Allemands l'infirmière anglaise Edith Cavell. On s'attend à des incidents.
On n'a pas le temps de raconter le parcours courageux et héroïque de cette femme. Elle dirigeait l'école d'infirmières de Bruxelles et soignait les soldats français et anglais réfugiés au moment de l'arrivée des Allemands.
Alors, elle a permis l'évasion de centaines de soldats alliés, c'est ça ?
Oui, elle participe activement à un réseau d'évasion. Condamnée à mort pour haute trahison à 5h du soir, elle a été exécutée le lendemain matin, 12 octobre 1915. Autant dire que pour faire appel, c'était foutu.
Un procès sommaire.
Voilà. Après la guerre, son corps est ramené en Angleterre, cérémonie à Westminster, conduite par le roi George V. Puis elle est inhumée à Norwich où elle repose près de la cathédrale. On peut regarder sur YouTube le biopic qui lui a été consacré en 1939, mais c'est en anglais et la copie n'est pas très bonne.
Et dans ce contexte d'après-guerre, toujours dans l'Ouest éclair de 1919, on se plaint de la vie chère.
Bah oui, c'est la grève des ouvriers boulangers, d'abord en Angleterre, puis chez nous à Rennes. Ils travaillent 10 à 12 heures par jour et n'ont pas assez pour nourrir leur famille. Les ouvriers meuniers font cause commune. Les consommateurs s'organisent pour imposer des prix sur les marchés.
Et à Pontivy, on se plaint des racoleurs.
Oui, des marchands en gros incitent les paysans à déserter les marchés. Des fromageries se livrent à une guerre acharnée au détriment des consommateurs. On lit accapareurs, profiteurs dans les journaux.
Et puis une pénurie de sucre aussi.
Bah oui, 8 wagons de sucre arrivés à Rennes ont disparu. Où sont-ils ? Bah à mon avis, ils ne sont pas perdus pour tout le monde.
Le 19 août 1919, le réchauffement climatique est avant l'heure, 40 degrés à l'ombre, 53 degrés au soleil.
Oui, c'est à Rodez. Dans certains endroits de la ville, le thermomètre a marqué 40 degrés d'ombre et 53 au soleil. De la plupart des régions de France, on signale également de très hautes températures. Dans la Lozère, les moissonneurs ont dû abandonner les travaux des champs. Des incendies de forêt éclatent un peu partout. Certains habitants des Causses doivent faire plus de 10 km pour trouver de l'eau. Les rivières et les ruisseaux sont très bas. À Mende, on peut franchir en certains endroits le Lot à pied sec. Les récoltes encore en terre sont perdues et la désolation règne dans les campagnes.
Et puis en Bretagne, c'est la récolte du blé noir qui est fortement compromise. Et il est grillé sur place.
Et si on n'oublie pas que le blé noir joue un rôle important dans l'alimentation du paysan et même de nombreux ouvriers et ouvrières des villes, on reconnaît que la vague de chaleur qu'ils subissent à ce moment-là n'est pas de nature à faire baisser le coût de la vie. Et le journaliste termine par « de l'eau, et vite ».
Enfin, les nouvelles judiciaires, l'affaire Landru, un fou ou un simulateur alors ?
Eh oui, parce que Landru paye toujours d'audace, il répond aux interrogatoires qui ont commencé de façon plutôt cynique, narquoise. Le procès se déroulera 2 ans plus tard.
Mais qui est-il, ce Landru ?
Eh bien, il a commencé vaillamment une carrière d'escroc. Puis, fin 1914, il loue des villas où il fait disparaître des veuves qu'il séduit en leur faisant croire qu'il est également veuf et qu'il souhaite se remarier. Des jeunes femmes disparaissent mystérieusement. Finalement, suite à la plainte de 2 familles, une enquête amène l'arrestation d'Henri Désiré Landru en avril 1919.
Et dans l'Ouest éclair, on apprend que dans son petit carnet, on retrouve parmi les 283 femmes qu'il a contactées, le nom de 11 femmes dont on n'a plus de nouvelles.
Ouais, les victimes étaient découpées et les corps, troncs, jambes, bras, étaient soit enterrés dans des bois, soit jetés dans des étangs, tandis que les têtes, mains, pieds étaient incinérés.
Vraisemblablement dans la cuisinière de la villa.
Ouais. Son procès a lieu en novembre 1921. Son avocat, maître Moreau Giafferi, le défend avec talent.
Alors, une scène mémorable eut lieu pendant sa plaidoirie, où il affirma que des victimes avaient été retrouvées et allaient venir se présenter devant la cour d'assises.
Ouais, alors le public et les jurés, évidemment, ils tournent la tête vers la porte indiquée par le ténor. Évidemment, là, il n'y a personne qui entre. Et l'avocat en profite pour dire, mais si vous avez regardé, c'est vous doutez un peu de la culpabilité de mon client.
L'avocat général rétorqua du tac au tac que Landru, lui, n'avait pas tourné la tête vers la porte.
Et non, et donc sa tête, il l'a posée sur la guillotine le 25 février 1922. Il a toujours proclamé son innocence, mais les charges étaient accablantes.
I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love is real. Near you I want to be. The birds are singing, it is song time. The banjo strumming soft and low.
À l'étranger, on entend Swanee par Al Jolson, musique de George Gershwin.
Oui.
Un chanteur de jazz blanc qui chante la figure peinte en noir. Pourquoi ?
Oui, moi aussi je me suis posé la question, pourquoi dans un pays raciste, un blanc se tartinait la figure de cirage ? Donc c'est ce qu'on appelait le blackface qui est apparu au 19e siècle sous la forme de minstrel shows, qui veut dire ménestrel en français. Et les spectacles tournaient les noirs en ridicule, c'est-à-dire on leur peignait une bouche blanche surdimensionnée, des yeux écarquillés, et c'était fait pour faire rire. Ah ah ah, on rigole. Et fort heureusement, le blackface s'est arrêté dans les années 1930.
Attends, bon, malheureusement, on entend encore des fois parler dans les années 2000.
Ouais.
I love the old folks at home, Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in D-I-X-I, even though my mammy's waiting for me, praying for me down by the Swanee. The folks up north won't see me no more when I get to that Swanee shore.
Aux États-Unis, c'est aussi la prohibition, puisqu'un mois après l'entrée en vigueur de la loi, on constate une baisse de la criminalité.
Oui, et pourtant la prohibition qui dura de 1919 à 1933 fut le point de départ d'un vaste marché de contrebande dirigé par la mafia italo-américaine naissante. C'est ainsi que des noms célèbres tels qu'Al Capone bâtirent des fortunes colossales, et ils ont bien utilisé leurs mitraillettes pour exécuter leurs concurrents. Donc en fait, de baisse de criminalité, on peut douter.
Ça, en tout cas, ça a donné lieu à toute une mythologie dans le cinéma américain. On entend aussi Félix Mayol, le chanteur qui a fait construire le stade de rugby de Toulon, qui porte son nom.
Voilà, oui, tu connais bien le rugby.
Elle était pâtissière dans la rue du Croissant. Ses gentilles manières attiraient les passants. On les met à l'extrême, ses yeux de buis d'amour, sa peau douce comme la crème et sa bouche un petit four. Et du soir au matin, dans son petit magasin, elle vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban. En servant tous les clients, elle trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle sautait, cette petite brioche au lait.
Alors, insolite, j'ai retrouvé au tribunal correctionnel, donc il y a ce qu'on appelle la pêche à la grenade. Non, c'est pas une nouvelle boisson. Louis-David Hédé, en Ille-et-Vilaine, trouve plus simple d'aller à la pêche en se servant d'une grenade « Bosch », entre guillemets. Il est condamné à 50 francs d'amende.
Une grenade « Bosch »
C'est ce qu'il disait. Moi, je dis ce qui est écrit.
On parle de 1919. Enfin, des petites annonces locales. Tiens, qu'est-ce qu'on vend dans ce West Éclair de 1919?
Alors, on demande à acheter 200 pieux de 10 à 12 mètres de long, s'adresser à Monsieur Verrière, ingénieur en ponts et chaussées.
C'est comme dans la rue du port de pêche.
Voilà, c'est la rue qui porte son nom, l'ingénieur Verrière. Pourquoi ? Parce que c'est à cette époque que commencent les travaux de Kéroman.
Alors qu'est-ce qu'on a à vendre aussi dans les petites annonces locales ?
On vend une parquetteuse. Tu sais ce que c'est, forcément, en bon état, et un moteur à gaz s'adresser à l'entreprise Périgot, rue des Glacis à Lorient.
Joseph Périgot ?
C'était un fabricant de caisses et directeur d'une scierie. Il a aussi été vice-président du conseil général et adjoint au maire. Et oncle de Denis Court, qui a tenu un garage Renault boulevard Laennec que les anciens ont certainement connu, et qui a été président de la Croix-Rouge, conseillère générale, bref, une personnalité lorientaise.
La rue des Glacis, c'est celle qui se trouvait derrière les anciennes fortifications.
Ouais.
Derrière le boulevard Fanchet d'Espéret, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça, bravo Damien.
Enfin, il paraît qu'on se guérit définitivement de la syphilis grâce au comprimé Venosol.
Oui, voilà. Et la publicité est accompagnée d'un texte que je vous lis. Quelques personnes nous ont reproché de faire connaître notre héroïque remède par la voie de la publicité et de faire ainsi une fâcheuse réclame autour d'une maladie qu'elles qualifient bien à tort de honteuse. Nous estimons au contraire faire œuvre utile. Serait-il préférable de laisser le public dans l'ignorance ? Nous répondons en citant le mot lapidaire d'un écrivain bien connu : la vraie, la seule maladie honteuse, c'est l'ignorance, cause première de la propagation de la syphilis. Est-ce que tu sais que c'est Christophe Colomb qui a apporté la syphilis par l'intermédiaire de ses marins lorsqu'il a découvert l'Amérique ?
Donc il n'a pas fait que découvrir l'Amérique.
Non,
alors.
Voilà, il a découvert aussi des maladies et que ça a déclenché une très grave épidémie en 1494.
C'est la pénicilline découverte en 1928 par Fleming qui a permis réellement de soigner cette maladie.
Il n'existe pas de vaccin contre la syphilis actuellement, comme pour le VIH. Alors, prenez soin de vous et sortez couverts.
Ça va toi.
Et pour finir, Damien, je t'invite à venir danser une petite java, si tu veux, avec moi, hein, on peut tenter le coup. La plus batte des javas avec Nana et Julo Gueule d'Acier.
Batte, c'était de 1919, le mot batte. Voilà, c'était la Gazette. C'est extrait de quel journal, toutes ces informations ?
L'Ouest éclair de 1919.
La Gazette.
L'actualité de 1919.
Pour les amateurs de chansons réalistes, la plus batte des javas. Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Jules aux gueules d'acier. Et pour vous raconter ça, il fallait une java. J'en ai fait une pâtée, écoutez-la. Mais je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout. Mes couplets ne riment pas bien, mais je m'en fous. Le grand Julon et Nana sur un air de java. Parce qu'on lui rompe le musette sur un air de javette. Elle lui dit j'ai le béguin sur un air de java. Il répondit tant mieux sur un air déjà vieux. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est le plus batte des javas. Ils partirent tous les deux comme des amoureux à l'hôtel meublé du fou nerveux. Le lendemain, le grand Julot lui dit « j'étais dans la peau » et il lui botta le bas du dos. Elle lui dit « j'ai compris, tu veux de l'argent, chérie, j'en aurai à la sueur du nombril. » Alors elle s'en alla sur un air de java, boulevard de la Chapelle sur un air de javelle. Elle se vendit pour de l'or sur un air de javor, à 3 francs la séance sur un air de jouvence. Ah, 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 écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 c'est la plus batte des javas. Julon pendant ce temps, ayant besoin d'argent, lui jetait un vol extravagant. Il chipa, lui Julon, une rame de métro qu'il dissimula sous son paletot. Le coup était bien fait, mais juste quand il sortait, une roue péta sous son gilet. Alors on l'arrêta sur un air de java, mais rouge de colère sur un air de javert. Dans le ventre du flic, sur un air de javic, il planta son eustache sur un air de jeune vache. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est la plus bête des javas. Nana ne sachant rien, continuait son turbin. 6 mois se sont passés un matin. Elle rentre à la maison, mais elle a des frissons. Elle s'arrête devant la prison. L'échafaud se dresse là, le bourreau qui ne s'en fait pas fait le coup près à la pâte Omega. Julon vient à petits pas sur un air de java. C'est lui qu'on guillotine sur un air de javine. Sa tête roule dans le panier sur un air de javier. Et Nana s'évanouille sur un air de javouille, c'est idiot. Ah, 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 ah. Écoutez ça si c'est chouette. Ah, 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 ah. C'est la plus batte des javas.